voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. Elle nous écrit d'un autre continent encore trop peu exploré, un monde de liberté solitaire où vivent des femmes aventurières qui réalisent leur rêve de voyage et où les hommes sont des voyageurs comme les autres. Pas plus, pas moins, pas mieux. Après des années de voyage et autant, sinon plus, de lecture, la journaliste française Lucie Azéma, notre invitée cette semaine, a donc décidé d'explorer ce vaste continent qui, chaque jour, semble grandir un peu plus en elle. Intime et littéraire, cette exploration prend aujourd'hui la forme d'un essai paru chez Flammarion, « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ ». Un premier livre ambitieux et sensible, à la fois politique et poétique. Emerson disait « Accroche ton chariot à une étoile ». Et en cherchant bien, c'est une constellation, une galaxie qu'a trouvée Lucie Azéma, peuplée d'étoiles féminines qui s'appellent Alexandra, Marie, Isabelle, Odette, Nelly ou encore Ella. Celles et ceux qui nous écoutent savent certainement les patronymes qui s'y rattachent, puisque ces grandes voyageuses et écrivaines peuplent souvent nos émissions et nos imaginaires. Elle nous écrit d'un autre continent dont il faut encore dessiner les contours et nommer les lieux, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Lucie Azéma, car entre masculin et féminin, c'est bien connu, c'est d'abord une affaire d'homme.
Adolescente, j'ai cherché le masculin de mégère. J'ai trouvé la mégère apprivoisée de William Shakespeare et aussi la mujer gorda dans un manuel d'espagnol. Je suis aussi tombée sur les érinies, les euménides, les furies, mais de masculin, point. J'ai tenté le même exercice avec Rombière et j'ai connu le même désappointement. J'ai aussi cherché pour garce, mais j'ai vite compris que ni gars ni garçon ne pouvaient faire l'affaire. J'en suis donc revenue aux érinies, aux éménides, aux furies, pas tellement pour la querelle d'interprétation entre Eschyle et Euripide, mais pour constater que la mythologie grecque et la mythologie romaine, qui ont tellement nourri nos imaginaires, ne contiennent pas beaucoup, beaucoup de dieux et de demi-dieux dont la nature et les attributs sont tels qu'ils finissent par devenir des noms communs péjoratifs. Alors je me dis que dans l'enfance, à force d'être abreuvé, petit garçon, petite fille, par ces personnages qui relèvent d'un sexisme subreptice, cette dépréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien finir par laisser des traces. Elles ont de plus pour faire valoir davantage ces figures féminines, positives, contemporaines, que l'on ne connaît pas assez et que l'on ne met pas assez en lumière.
Lucie Azéma, bonjour.
Bonjour.
Alors avec les mots contre les femmes tirés du dictionnaire critique du sexisme de Christiane Taubira qu'on vient d'entendre dans cet archive de 2016 de France Culture, on va se pencher d'abord sur le sens et le poids des mots, sachant qu'en matière de femmes et de voyages, il y en a un, Lucie Azéma, qui vous aussi, jeune femme, vous a interpellée, c'est celui d'aventurière.
Oui, tout à fait. En fait, aventurière, c'est pas l'équivalent féminin de aventurier. Historiquement, l'aventurière, c'est la prostituée de luxe. En fait, c'est la courtisane. Et il y a vraiment une dépréciation dans ce mot. C'est aussi pour ça que les femmes, c'est ce que disait Christiane Taubira, c'est que ça laisse des traces. Aussi, les femmes ont eu du mal
à se dire aventurière parce que
exactement,
c'était pas du tout un terme positif.
Voilà. Et donc à partir aussi. Et il y a aussi derrière l'aventurière, il y a la figure de la flâneuse, qui en fait en langue française est une chaise longue. Et il y a Lauren Elkin, qui est une écrivaine qui a été étudiante en langue française et qui a cherché en fait le féminin de flâneur, quand elle étudiait le français, elle a eu du mal à le trouver parce que tout simplement le flâneur est aussi un homme.
Alors parce qu'ici se joue bien sûr pour les femmes à travers la question du départ et du voyage le fait de quitter la maison, cet espace intérieur auquel on les a si longtemps réduites. Christiane Taubira a fait référence à la mythologie grecque qui a longtemps façonné nos imaginaires. Et vous très vite aussi, Lucie Azéma, dans votre livre, vous cherchez à détricoter, c'est comme ça que vous le dites, un de ces mythes, celui de Pénélope.
Oui, c'est le grand mythe du monde occidental pour l'aventure. C'est Ulysse qui parcourt le monde pendant que Pénélope, elle l'attend, elle détisse son ouvrage pour rester fidèle à son époux. Elle élève seule Télémaque et finalement, Pénélope, c'est la figure de l'attente en fait. C'est la figure sédentaire du voyage pendant que l'homme, c'est celui qui parcourt le monde et qui part véritablement à l'aventure. Et on retrouve ça dans tout l'imaginaire des marins, qu'il y aurait une femme dans chaque port. C'est la femme, c'est celle qui reste, en fait.
Alors, pour revenir plus largement à l'esprit de votre livre, il faut dire tout de suite qu'on n'est pas dans une énième compilation de portraits de femmes insoumises, méconnues, puissantes, diraient certaines. On est surtout dans une déconstruction des assignations, des rôles et de la place faite ou prise, d'ailleurs, par les femmes dans le voyage et aussi dans les récits de voyage, qui est un empire, en quelque sorte, du masculin. Comment vous y êtes pris ? Comment tout cela, d'ailleurs, a démarré ?
Tout simplement parce que j'étais une grande lectrice de récits de voyage et une voyageuse aussi. Et finalement, je me rendais bien compte, notamment chez Kerouac ou chez Pierre Loti, qu'il y avait vraiment... Je me sentais vraiment exclue en tant que femme. Et j'avais envie de lire, en fait, des récits de voyage qui chaussent un peu ces lunettes féministes, parce que les voyageuses ont écrit sur leur voyage, mais beaucoup n'avaient pas envie spécialement de se livrer à une analyse féministe. Et finalement, j'avais envie de lire ça. Et c'est vrai que il y a des historiennes qui l'ont très bien fait, de justement un peu sortir des oubliettes les figures des voyageuses. Mais je voulais essayer de tirer plusieurs fils et essayer de comprendre en fait comment les femmes ont été exclues du voyage par énormément de leviers en fait finalement.
Parce que vous écrivez aussi que le voyage c'était jusque-là un angle mort des études féministes.
Oui, c'est un champ qui est vraiment sous-exploré. C'est très peu abordé alors que c'est quelque chose qui me semble essentiel, puisque là-dedans, on retrouve toute l'assignation des femmes à l'intérieur, au monde de la maternité, au foyer, en fait, pour le dire très concrètement, et à cette solitude qui est réservée aux hommes, cette indépendance qui est le propre du masculin, en fait. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses sous-jacentes, en fait, qui sont intéressantes et, je trouve, essentielles à essayer d'analyser.
Alors, vous l'avez dit, tout est parti aussi de vos lectures de jeunesse, où jeune fille, vous vous nourrissiez de récits de voyage. Vous avez parlé de Kerouac, un des auteurs cultes de la Beat Generation. Sauf que là, grande déception quand même quand vous l'avez lu, puisque la femme apparaît, notamment dans Sur la route, comme un morceau aguichant, une poulette, plus finalement que comme une égale sur la route. Vous les avez cherchées longtemps, Lucie Azéma, les modèles féminins. Les femmes voyageuses ?
En fait, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que je continue à lire des récits masculins, et dont certains très misogynes, comme chez Kerouac. Et alors que pour moi, vraiment, la Beat Generation, c'est inouï, en fait. C'est vraiment une philosophie du voyage qui est inouïe. Et je m'en sentais exclue, mais sans me dire, bon, bah, je vais chercher d'autres figures. En fait, elles sont venues à moi, et c'est en traînant dans les librairies, en écoutant la radio, en regardant des reportages, que je suis tombée sur ces femmes. Et là, j'ai commencé une boulimie complète de récits de voyage féminins. Et ça m'a ouvert les yeux, en fait, sur le fait qu'il y ait un angle mort du récit de voyage masculin qui élude beaucoup de choses, en fait.
Parce que c'est aussi une autre vision du monde.
C'est une autre vision du monde, et c'est une autre vision de certains aspects du voyage aussi, de tout ce qui a trait au corps féminin, donc que ce soit les règles, que ce soit la hantise d'une grossesse non désirée qui survient sur la route. Et même encore aujourd'hui, les voyageuses en parlent très peu, ça c'est certain, ça commence. Mais oui, c'est... J'avais envie de lire cet autre aspect des choses.
Alors, parmi ces femmes qui très tôt ont décidé de prendre la poudre d'escampette, on retrouve Lucie Azéma, une jeune journaliste du genre intrépide. Vous en parlez d'ailleurs au début de votre livre. Cette femme, c'est Nellie Bly, jeune reporter de 24 ans au New York World, qui un jour, de 1888, se met à rêver d'horizons lointains et de records.
Comment m'est venue cette idée ? Celle-ci m'est apparue un beau dimanche après que j'eus passé la journée, puis une bonne partie de la nuit à ferrer un sujet. J'avais l'habitude de me creuser la tête le dimanche et de soumettre le résultat au bon vouloir de mon rédacteur en chef le lendemain. Or ce jour-là, rien n'avait surgi à mon esprit, et à 3 heures du matin, j'étais encore à me tourner dans mon lit, épuisée et migraineuse. Agacée par mon manque d'imagination, je finis par me désespérer. Qu'est-ce que j'aimerais être à l'autre bout de la planète ? Tiens, mais pourquoi pas, songeais-je. Des vacances me feraient le plus grand bien. Je pourrais entreprendre un tour du monde. Le jour suivant, j'abordais prudemment le sujet auprès de mon rédacteur en chef, craignant qu'il ne trouve mon projet trop farfelu. « Alors, avez-vous des idées d'articles ?» demanda-t-il quand je vins à sa rencontre. « Une seule, » répondis-je posément. « Je veux faire le tour du monde. »« Vraiment ?» fit-il en levant vers moi un regard pétillant de curiosité. « Oui, et je veux le réaliser en moins de 80 jours. Je pense pouvoir battre Phileas Fogg. Me donnerez-vous ma chance ?» Il me promit qu'il me soutiendrait, et nous nous rendîmes sans attendre dans le bureau du directeur commercial. Sa sentence tomba comme un couperet. « Vous n'y arriverez jamais. Vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur, et même si vous voyagez seule, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l'anglais. Rien ne sert d'en débattre. Seul un homme peut relever ce défi. » Fort bien, alors je partirai en même temps que lui pour le compte d'un autre journal, et soyez sûr que je le battrai. Vous en seriez fort capable, marmonna-t-il.
« 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes, c'est le temps que prendra Nelly Bly pour aller et revenir dans le New Jersey en passant par Londres, Calais, Brindisi, Suez, Colombo, Yokohama ou San Francisco. Nelly Bly a donc fait mieux que le héros Jules Verne. Et dans cet extrait de son récit « Le tour du monde en 72 jours », on perçoit très bien, Lucie Azéma, la détermination qu'il fallait aux femmes pour entreprendre de grands voyages, pour rompre finalement avec l'ordre établi. Parce que finalement, et c'est ce qu'on ressent, ces pionnières, pour elles, partir, c'était souvent une rupture, un choix radical qu'il fallait tenir.
Exactement, et Nelly Bly, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle était très déterminée. En plus, elle est très drôle, en fait, quand on lit ses récits. Et c'est vrai que les femmes voyageuses ont dû repousser beaucoup plus de murs, en fait, que les hommes voyageurs. Et finalement, on présente toujours l'aventurier comme celui qui part à l'aventure avec un grand A. Et finalement, les aventurières, non seulement elles avaient les problèmes du voyage que tous les voyageurs rencontrent, mais en plus, elles avaient les problèmes liés à leur vie sédentaire, aux injonctions patriarcales de la société dans laquelle elles avaient été élevées. Et donc, c'est vraiment, finalement, bon, si on veut un peu faire de la provocation, je pense que les plus grandes voyageuses de l'histoire étaient justement des voyageuses féminines, parce qu'elles repoussaient beaucoup plus de murs.
Parce qu'il y avait plus d'obstacles,
ouais. Exactement, oui.
Alors, le récit de Nelly Bly aux allures de course contre la montre sera à l'époque publié sous forme de feuilleton dans la presse, et ça va tenir en haleine les lecteurs américains. Il y a donc cette idée de performance, en l'occurrence pour Nelly Bly, d'exception aussi, dont vous dites, Lucie Azéma, qu'il faut se méfier finalement au sujet des femmes. Comme si finalement le voyage s'était réservé à une élite féminine en acier trempé qui ne pleurniche pas, ne doute jamais. Et vous écrivez que c'est une façon de rendre le voyage inaccessible.
Oui, puisque finalement, les figures d'aventurières qu'on nous présente souvent, donc c'est Alexandra Davinelle, par exemple, ou Nelly Bly, qui sont... C'est très difficile de s'y identifier. C'est absolument extraordinaire sur le plan physique, comme mental, ce qu'elles ont fait. Et c'est vrai qu'en fait, on peut aussi montrer d'autres figures d'aventurières qui sont des voyageuses qui avaient plus de difficultés, qui étaient... Par exemple, il y a Anne-Marie Schwarzenbach, qui était quelqu'un de très mélancolique, voire vraiment dépressive, qui avait des problèmes avec la drogue, qui était très mal dans sa famille, dans sa peau. Et c'est vrai que c'est aussi important de montrer... Elles étaient aussi des humaines, en fait. Et c'est ce qui rend les choses plus vraies et plus belles, en fait.
Sachant que Anne-Marie Schwarzenbach, elle est une Suissesse.
Oui.
Vous avez parlé aussi d'Alexandra. Il y aurait qui d'autre parmi ces femmes plus humaines, même si Alexandra l'est aussi?
Oui, j'aime aussi beaucoup Ella Maillard, qui est plus un peu plus légère, mais dans le bon sens du terme. Et il y a aussi Isabelle Eberhardt, qui a donc arpenté le désert algérien habillée en cavalier arabe. Et pareil, dans ses écrits, elle a une plume éblouissante, et ça on peut le dire, et très très sensible et aussi très humaine.
Il est des heures à part, des instants très mystérieusement privilégiés où certaines contrées nous révèlent, en une intuition subite, leur âme, en quelque sorte leur essence propre, où nous en concevons une vision juste, unique, et que des mois d'études patientes ne sauraient plus ni compléter, ni même modifier. Cependant, en ces instants furtifs, les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que l'ensemble des choses. État particulier de notre âme ou aspect spécial des lieux, saisi au passage et toujours inconsciemment ? Je ne sais. Ainsi, ma première arrivée à Elwed il y a 2 ans fut pour moi une révélation complète, définitive de ce pays âpre et splendide qui est le souffle, de sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi.
Je pense pas que Isabelle Eberhardt voyageait. Je pense qu'elle elle rencontrait, et c'était une immersion. C'était un acte d'amour au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire aller au cœur de l'autre, aller chercher l'essence de l'autre, rentrer dans cette âme-là avec le plus grand respect et à petits pas. Lorsqu'elle part en Algérie, ce qui l'intéresse, c'est le mouvement de la pensée. C'est une intellectuelle. Donc elle se rend compte que les femmes en Algérie, elles sont vouées à des tâches de cuisine et de famille, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc elle va aller discuter avec les hommes. Et pour discuter avec les hommes, il faut qu'elle soit habillée en homme. C'est beaucoup plus simple. Isabelle Eberhardt, elle va jouer de ses identités masculin-féminin, mais pas du tout pour des questions de genre qui seraient liées à des désirs de passer d'une sexualité à une autre, pas du tout. Elle prend le costume, le vêtement, pour ce qu'il est, c'est-à-dire une porte d'entrée vers une communauté.
En 2019, à l'occasion d'une exposition genevoise consacrée à la grande autrice et voyageuse Isabelle Eberhardt, on était allé sur ses terres natales pour essayer de mieux comprendre cette femme à l'existence aussi brève qu'intense. En effet, celle qu'on a surnommée l'Amazone des sables embarquera à seulement 20 ans pour l'Algérie coloniale de la fin du 19e siècle, sachant qu'elle va mourir 7 ans plus tard, dans la crue d'un oued. Karel Ménine, conservatrice de l'exposition qu'on vient d'entendre, l'a bien dit, Isabelle se jouait des identités. Elle était d'ailleurs connue pour ça, pour s'habiller en homme, donc. Et vous écrivez, Lucie Azéma, que c'était une façon pour elle, et pour d'autres d'ailleurs, femmes voyageuses, d'accéder à un masculin neutre. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, puisque là, on touche vraiment dans la neutralité du corps dans l'espace public. Et le corps neutre dans l'espace public, c'est le corps de l'homme et le corps de l'homme blanc, même plus précisément. Et donc, une femme qui voyage, c'est vrai qu'elle passe plus inaperçue si elle s'empare des habits d'homme. Et aussi, historiquement, les femmes qui se travestissaient, c'est aussi parce qu'il y avait des interdictions légales de voyager, comme Jeanne Barret, qui est la première femme à avoir fait le tour du monde. Elle a embarqué sur les bateaux de Bougainville, habillée en marin. Elle se faisait appeler Jean Barret. Et il y a énormément de voyageuses comme ça qui ont traversé le monde sous les habits d'hommes. Et peut-être qu'on ne les connaîtra jamais. Elles ont un peu disparu dans l'histoire, elles aussi, mais elles ont existé.
Alors se travestir, vous l'avez dit, c'était donc une façon de se libérer du genre et d'être absolument soi-même, ni homme ni femme finalement. Isabelle Eberhardt était surtout et reste avant tout une écrivaine. Après sa mort en 1904, elle va laisser derrière elle plus de 2000 pages et un témoignage unique sur le monde arabe et musulman du début du XXe siècle, à une époque où l'Orient et ses harems, bien sûr, sont l'objet de tous les fantasmes occidentaux. L'orientalisme, avec Pierre Loti, vous en avez parlé, ou Flaubert, vous en parlez à la faveur d'un long chapitre intitulé « Porno tropique », Lucie Azéma, qui vient finalement décrypter la superposition de ces regards, alors à la fois masculins, virilistes et aussi coloniaux.
Oui, puisque finalement la sexualité est vraiment un levier de domination très important, et c'est aussi Edward Said qui l'a montré dans son ouvrage L'Orientalisme. Et finalement, en fait, les voyageurs masculins nous ont montré les harems comme des lieux de volupté, où on boit du sirop de rose, où vraiment c'est ce regard en fait qui nous a été donné. Et les voyageuses féminines ont permis de aussi mettre en avant que c'était en fait avant tout et surtout des lieux d'esclavage, que ce soit pour les femmes qui y vivaient et aussi pour les hommes qui les gardaient, qui étaient des hommes noirs qui étaient enlevés en Afrique de l'Est pour être réduits en esclavage et être mutilés. Et donc ça a permis aussi d'apporter un autre regard. On revient à cette histoire de l'angle mort en fait que les récits masculins ont donné.
Et c'est ça, ce fameux regard masculin ou male gaze dont on parle beaucoup, qu'on retrouve finalement dans le récit
de
voyage.
Oui, c'est assez commun en fait à toute la littérature, tous les arts en général, et c'est évidemment le récit de voyage n'y échappe pas.
Alors, parce qu'il en va de la possession du corps des femmes comme celle du territoire, vous abordez justement ce point saillant, encore, je trouve, assez peu développé ou déconstruit en France. C'est cette collusion entre colonisation et récit de voyage. Parce que vous écrivez que la littérature de voyage, c'est la littérature du dominant.
Oui, elle s'est construite comme ça, c'est-à-dire que déjà, historiquement, les grandes figures coloniales étaient en fait souvent des grands aventuriers. Et tous les récits qu'on avait de l'étranger, des colonies au début, avant même que ça devienne des colonies, c'était des récits de voyageurs. Donc,
oui, les grandes explorations portugaises, espagnoles.
Exactement, c'était vraiment imbriqué. Et donc, finalement, la littérature de voyage nous a apporté un regard très dominant, en fait, qui suivait les logiques des sociétés européennes qui partaient conquérir et qui portaient un regard sur l'autre en l'inventant, en fait, tout simplement, en lui inventant une identité, en annihilant, en fait, ce qu'ils étaient. Et le récit de voyage a énormément joué.
Alors, il faut décoloniser le voyage, c'est ce que vous dites. Vous lui consacrez d'ailleurs un chapitre, Lucie Azéma. À ce sujet, on va écouter à présent une grande autrice polynésienne, la première à avoir publié en 91 dans l'archipel aux éditions Au Vent des Îles, une maison d'édition qui œuvre justement à décoloniser les imaginaires. Extrait d'entretien avec Chantal Spitz, réalisé à l'occasion de l'exposition Le Bateau Atelier de Titouan Lamazou, qui s'était tenue en 2019 au musée du Quai Branly, Jacques Chirac.
Le plus important, c'est de dire ce qui nous est arrivé. Voilà, il nous est arrivé ça. Après, on ne va pas aller faire la guerre, hein, mais il faut qu'on dise les gens sont arrivés. Voilà, il nous est arrivé ça. On a eu l'alcool, on a eu les maladies. Après, il y a eu des histoires d'amour, c'est sûr. Mais qu'on ne vienne pas me dire que quand ces marins arrivent, d'ailleurs, quand le premier Européen arrive ici, il nous tire dessus, hein. C'est quand même le premier contact. Après, on te dit, ah, ils étaient contents, ils se sont précipités. Non, on nous tire dessus. Ça, on ne dit pas. C'est des contacts violents. Mais on va te dire, ah, les femmes, elles se sont jetées dans les couches. Attends, les marins à l'époque, ils ont traversé, ils ont quoi, 6 mois de navigation? Ils ont le scorbut. Ça, t'apprends à l'école. Dans le scorbut, ça veut dire qu'ils ont les gencives qui saignent, ça veut dire qu'ils ont les dents qui se déchaussent. Ça veut dire, d'ailleurs, on les a appelés les pop-a. Les pop-a, ça veut dire les peaux brûlées. Ils ont la peau qui pèle. Ils ont des barbes jusque-là. Enfin, c'est quand même un pays où les gens sont un peu imberbes, à l'origine. Hein. Ils sentent mauvais parce qu'ils ne se baignent pas quand même. Parce qu'à l'époque, en Europe, c'est pas l'hygiène, c'est pas le premier truc. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. Ils voudraient que nous faire croire que nos grands-mères se sont précipitées dans leur couche, alors qu'ils avaient des mecs là, bien beaux, bien machins, qui sentaient bon, ils se baignaient 15 fois par jour, ils n'avaient pas de poils. Il faut arrêter. Ils n'avaient pas de caries, il faut arrêter.
Lucie Azéma, ces mots simples, vifs de Chantal Spitz suffisent à dire finalement l'absurdité de ce fantasme de l'hospitalité sexuelle des Tahitiennes, en l'occurrence, longtemps colporté par les récits de voyageurs dont vous parlez dans votre livre. Absurdité parce que c'est une évidence, les femmes ne s'offraient pas et ne s'offrent jamais d'ailleurs. Et pourtant, il fut un temps où tout le monde voulait y croire ou avait intérêt à y croire. Je me posais la question, études féministes et études postcoloniales, est-ce que c'est ça finalement, montrer le nez au milieu de la figure?
Oui, totalement, puisque la Polynésie française, parce que c'est surtout ça en fait qui a été présenté comme un Éden sexuel pour les voyageurs. C'était des viols en fait qui avaient lieu, c'était des échanges de femmes contre des denrées. La vérité est là, et c'est vrai que tous les récits de masculins nous ont montré des femmes excessivement libres qui n'attendaient que les marins. Et j'aime beaucoup cet extrait puisque c'est évident en fait qu'elles n'avaient pas forcément envie de se jeter sur eux. Et c'est, comme vous dites, c'est le nez au milieu de la figure en fait. C'est évident que ça se passait comme ça et on a voulu nous faire croire le contraire. Ouais.
Mais ça dit aussi à quel point finalement le récit de voyage, c'est quand même beaucoup de la fiction.
Oui, il y a une part d'imaginaire qui est très importante. C'est un récit, donc c'est pas un documentaire. Il y a l'aspect subjectif est très important.
C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on vit.
Voilà, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que l'on voit. Et il faut évidemment pas éluder ça. Ça fait partie aussi du charme du récit de voyage et de son intérêt. Mais c'est pas, justement, ça ne doit pas être pris comme la vérité, comme un documentaire. Et il ne faut pas laisser prendre le fantasme sur la réalité. Et surtout, dans ces cas-là, c'est idéologique. Ça a finalement servi à justifier des crimes, des viols, des exactions. Oui.
Oui, les récits d'exploration ont souvent eu pour effet d'asseoir un régime colonial. Mmh. Vous en parliez notamment à propos de Savorian des Brazas.
Voilà, c'est que finalement, l'agenda colonial a été confirmé en fait par les récits de voyage et inversement en fait. Les deux regards étaient liés.
Alors pour mieux penser l'identité et le genre, il faut aussi interroger, on en parle, leur relation au pouvoir. Et vous aussi, Lucie Azéma, vous revenez sur d'autres voyageurs de l'ombre, rendus invisibles comme les femmes. Alors ça peut être des esclaves qui ont accompagné les explorateurs portugais au moment des grandes découvertes, des voyageurs noirs au moment de la conquête du pôle Nord, en pleine ségrégation aux États-Unis. On a d'ailleurs consacré une émission à cette figure, Matthew Henson de son nom, ou bien encore d'autres voyageurs invisibles, tout simplement des voyageurs non occidentaux, dans une vision parfaitement euro ou européo-centrée, qui pense en fait être la seule à voyager et découvrir. Et à ce sujet, vous mettez dans votre livre en lumière la trajectoire de deux frères iraniens, partis dans les années 50, oui. À moto et en deux chevaux, c'est ça ?
Oui, exactement.
Qui sont partis sillonner le monde et qui pourtant, ici en France ou même au-delà, sont de parfaits inconnus. Qui sont-ils déjà ?
C'était donc les frères Omidvar, Issa et Abdullah Omidvar, et qui sont partis, comme vous le dites, donc c'était en 54, si je ne me trompe pas. Et ils avaient une soif de découvrir, et surtout, c'est probablement les premiers documentaristes de voyage de l'histoire en vidéo. Et ils sont, comme vous le dites, complètement inconnus ici. En Iran, ils sont très connus, ils ont même un musée qui leur est consacré. Et c'est intéressant de voir que finalement, ils ne sont pas considérés comme des vrais voyageurs, avec des triples guillemets, puisque finalement, le vrai voyageur, c'est l'homme européen, blanc, et les frères Omidvar souffrent de ça, ils sont toujours en vie, de leur anonymat, en fait, finalement, par chez nous.
Alors l'Iran, Lucie Azéma, c'est une de vos terres d'adoption. Vous êtes installée là-bas en 2017 après avoir vécu en Inde et au Liban. On en reparle juste après de vos voyages après une courte pause musicale, tout de suite sur RFI. C'est l'ensemble iranien chez Mirani.
Tous les voyages sont sur RFI.
Il y a très peu d'exploratrices, il y a très peu de femmes dont les récits de voyage ont fait germer chez moi l'envie de voyager. En tant que femme, on a plutôt tendance à nous dire qu'en fait l'inconnu, le dehors, c'est un espace violent, un espace dangereux dans lequel il va falloir nous protéger et que l'intérieur, l'espace domestique serait l'espace où on est protégé. Donc c'est assez difficile de sauter le pas, de partir voyager seule quand on est une femme, et il y a beaucoup de récits qui vont dans ce sens, de jeunes femmes qui ne trouvent pas du coup de modèles permettant de les aider à sauter ce pas. Et c'est encore aujourd'hui une conquête, le fait de voyager seule. C'est pas la norme.
Parce que voyager en tant que femme est encore au XXIe siècle une conquête, il faut donc s'armer de confiance, de mots et de modèles. Charlotte Soulary, fondatrice de la Guide de Voyage, un guide qui entend mettre les femmes au centre de la découverte de Paris et qu'on avait suivi, s'y attache, tout comme Lucie Azéma, notre invitée cette semaine qui vient de publier aux éditions Flammarion un brillant essai féministe, Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ. Et avec elle, on continue donc, à si loin si proche, d'explorer, de déconstruire le voyage au féminin. Ensemble, on a déjà, Lucie, convoqué de grandes figures voyageuses, mais on n'a pas parlé encore de vos voyages et de votre rapport au voyage, puisque vous le distillez aussi de façon assez délicate, très personnelle dans votre livre, parce que le voyage, c'est aussi une affaire d'intimité, d'identité aussi finalement, puisque souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que ces lieux inconnus nous révèlent. Est-ce que c'était votre cas? Quel est d'ailleurs votre rapport au voyage? C'est une question compliquée, mais intéressante.
C'est une question assez cruelle, puisque c'est difficile d'y répondre, puisque justement, comme vous le dites très bien, le voyage nous révèle. Et c'est vrai que parler de ses voyages et de son rapport au voyage, c'est, en tout cas dans mon cas, c'est vraiment se dévoiler complètement.
Alors n'y voyez là aucune cruauté de ma part, hein. Juste de la curiosité.
Non, je sais bien. Mais c'est vrai qu'à l'écriture de ce livre, ça a été un peu aussi une insistance de la part de mon éditrice chez Flammarion, Pauline Miel, qui voulait absolument que je distille un peu des éléments.
Oui, de ne pas rester en retrait, parce que c'est vrai qu'il y a à la fois une... Vous adossez cette grille de lecture féministe au temps passé, au temps actuel, vous convoquez énormément de références, votre livre est très documenté. Mais c'est vrai qu'on vous retrouve et on en a besoin aussi de comprendre ce que c'est pour vous, jeune femme, voyageuse du XXIe siècle, le voyage.
Oui, je pense que je pourrais tout simplement dire que, pour résumer, que le voyage, pour moi, c'est ma manière d'être libre, puisque je ne suis jamais aussi libre que quand je voyage, puisque je suis seule quand je voyage. Et c'est vraiment des retrouvailles avec moi-même. C'est un temps que je peux consacrer à la lecture, que je peux consacrer à rencontrer des gens de façon plus réelle et plus empathique, puisque je peux être moi-même. En tout cas, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même à 100%, que toutes les cartes sont un peu rebattues à l'intérieur de moi. Et c'est aussi le moyen d'accéder, j'en parle un peu dans mon livre, à ce que j'ai repris les mots de Virginia Woolf, mais sur la chambre à soi, le fait d'être seule dans des espaces. C'est aussi pour ça que j'aime voyager sur le temps long. C'est ce que j'ai décidé, en tout cas comme mode de vie pour l'instant, d'essayer de m'installer, d'apprendre la langue et de m'incorporer le plus possible au pays. Évidemment, ça n'est jamais possible à 100%. Je suis toujours une étrangère. Mais de me fondre le plus possible et d'essayer un peu, justement, de décoloniser mon voyage à moi en essayant d'évacuer le plus possible les fantasmes et d'être plus dans une réalité, une complexité du réel, en tout cas.
Alors, dans la deuxième partie de votre livre, vous mobilisez en quelque sorte les troupes féminines en les invitant pêle-mêle à se réapproprier leur corps, à surmonter la peur dans laquelle on les entretient sur le voyage et sur l'extérieur, on l'a entendu avec Charlotte Soulary, à se libérer aussi de la charge esthétique, à voyager léger, à reconquérir l'espace. J'ai envie de dire, c'est un énorme programme, en tout cas c'est un espèce de cahier des charges absolument immense. Et on se dit tout de suite, est-ce qu'un homme penserait à tout ça avant de partir?
Évidemment pas.
Bien sûr que non.
Bien sûr que non, et surtout la question de la sécurité, c'est vraiment, je pense, c'est là que tout ressort en fait, c'est que finalement, et on l'entendait très bien dans l'extrait, c'est que ce qui empêche le plus les femmes de voyager, c'est cette peur en fait. Quand on voyage seule, les premières questions c'est mais t'as pas peur, il peut t'arriver des choses, alors comme si finalement le foyer, on y revient, est le lieu de sécurité pour les femmes, alors qu'on sait bien que statistiquement ce n'est pas le cas, c'est plus meurtrier. Et en plus, être une femme de façon générale dans l'espace public, c'est une prise de risque, mais que ça soit à Paris ou au fin fond de je ne sais quel pays. Et donc, c'est aussi ça. Finalement, les femmes ne sont plus interdites de voyager de façon légale, en tout cas en Occident.
C'est ça, parce que ça reste quand même un privilège.
Bien sûr, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, j'ai même vu que le Népal commençait à faire des nouvelles lois là-dessus pour empêcher les femmes de voyager seules. Mais le verrou, en fait, se caractérise autrement. C'est que finalement, c'est des injonctions à la prudence, alors que les hommes, en fait, on valorise la prise de risque. Et ça, c'est général à la vie d'une femme, oui, c'est certain, à la sociabilisation d'une femme.
Alors, dans ces moments-là, quand on cherche à mobiliser de telles forces, rien de tel que d'aller voir du côté des aînés, de la grand-mère, que dis-je, de la patronne des femmes voyageuses occidentales, j'ai nommé Alexandra Davinel, un monument, une référence tant l'exploratrice française, première occidentale, a entré en 1924 à Lhasa, cité alors interdite du Tibet, continue aujourd'hui d'inspirer les âmes vagabondes, extrait de lettres à son mari.
Lhasa, 28 février 1924. Mon très cher grand ami, pas mal de temps s'est écoulé depuis que je t'ai écrit, et j'ai aussi fait pas mal de chemin depuis ce temps. Je te dirai tout de suite que j'ai complètement réussi la promenade pour laquelle je partais. Cette excursion aurait été considérée comme fort hardie pour un homme jeune et robuste. Qu'une femme de mon âge l'entreprit pouvait passer pour pure folie. Néanmoins, mon succès est complet. Mais l'on m'offrirait 1 million pour recommencer l'aventure dans les mêmes conditions que je crois bien que je refuserais. Ce qui m'a enchantée, c'est ma visite à ce que l'on peut appeler les vallées chaudes d'un pays froid. J'ai vu un Tibet inconnu des explorateurs, contempler des paysages extraordinaires qui surpassent en splendeur tout ce que j'ai vu dans l'Himalaya et ailleurs. Et j'ai pu, au mois de janvier, accrocher à mon sac une branche fleurie d'orchidées sauvages. Qui pense à ce pays-là quand on parle du Tibet glacial qui borde l'Himalaya ou le Turkestan chinois? On ne nous a parlé que de celui-là. Et moi-même, je n'en connaissais guère d'autres à part la région de Kham. Je crois bien qu'à l'heure actuelle, je suis parmi tous les voyageurs blancs, celui qui connaît le mieux le Tibet.
Lucie Azéma, l'assurance, la force de caractère qu'aurait gagné Alexandra Davinel sur les routes, c'est peut-être certainement une des leçons à retirer de cette trajectoire hors du commun, sachant que c'est assez drôle, dans cet extrait, elle parle d'excursion ou de balade, alors qu'on parle en fait d'un voyage de 14 ans, avec des épisodes, on peut le dire, héroïques, en particulier pour rejoindre Lhasa, où elle a à l'époque 56 ans. Elle voyage à pied, déguisée en mendiante. Et surtout, au départ, elle devait partir pour quelques mois. C'est ce qu'elle avait dit à son mari, Philippe Nel.
C'est ce qu'elle avait dit à Philippe, son mari. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez Alexandra Davinel, c'est justement qu'elle est l'anti-Pénélope, en fait, puisque c'est elle qui part et son mari l'attend. Il la supplie dans les lettres en lui demandant quand est-ce qu'elle rentrera. Effectivement, elle a dit qu'elle partait quelques mois. Elle est partie une quinzaine d'années sans se retourner. Pour elle, le mariage, c'était une façon de pouvoir gérer légalement son argent, puisque finalement, il lui envoyait ses fonds propres à elle. Et Alexandra Davinel, c'est vraiment une figure extraordinaire. Et je pense que ce qu'elle a fait, ça a été possible. Ça veut dire que beaucoup de choses, en fait, sont possibles à plus petite échelle. Mais c'est vrai qu'elle est une figure très importante, oui.
Et est-ce que c'est une figure aussi pesante parfois? Justement, on parlait tout à l'heure de ces figures exceptionnelles qu'on met en avant. Elle est en tête, finalement, Alexandra, parmi ces grandes figures, ces femmes en acier trempé. Est-ce que c'est une figure trop imposante?
Je pense qu'il en faut quand même, comme on en a chez les hommes. On a Jack London ou des figures comme ça très imposantes aussi.
Tutélaire?
Oui, tutélaire. Il en faut quelques-unes, mais c'est sûr qu'il faut... Il en faut d'autres, puisque c'est difficile de s'y raccorder quand même.
Alors dans votre livre, Alexandra, vous l'avez dit, revient souvent, pour dissiper notamment, on en a parlé, la question du risque, et puis aussi pour aborder la question de la maternité. Sachant qu'Alexandra Davinel, bouddhiste et féministe convaincue, n'aura jamais d'enfant, biologique en tout cas, et vous abordez cette question alors au pluriel, en la nommant dans votre livre « les maternités vagabondes », puisque c'est une question multiple, mais aussi très complexe quand il s'agit de voyages et plus largement pour les femmes en général.
Oui, c'est-à-dire que historiquement, en fait, traditionnellement, les voyageuses ont refusé beaucoup la maternité. Il y a beaucoup de voyageuses qui ne voulaient pas avoir d'enfants, puisqu'en fait, ça allait à l'encontre de la vie de liberté solitaire dont elles rêvaient.
Oui, parce que c'est ça aussi la constante, c'est la très grande solitude de ces femmes. C'est comme elles ont rompu avec l'ordre établi, quelque part, sans se punir. Mais finalement, on se pose la question... Elles ont dû en tout cas vivre sur les routes une vie de très grande solitude.
Oui, mais je pense qu'il y avait forcément des moments où c'était plus difficile, mais elles se retrouvaient avec elles-mêmes. Et on parlait tout à l'heure de Anne-Marie Schwarzenbach, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de la solitude, en fait, qui détestait être seule. Mais pour revenir à la question de la maternité, justement, de plus en plus, il y a des figures de voyageuses qui vont voyager avec leurs enfants ou qui sont parties en laissant leurs enfants, parce que cette figure du père absent qui part à l'aventure et qui ramène des souvenirs à ses enfants, elle existe, elle est même presque valorisée, j'ai envie de dire.
Alors que la femme, pas tellement.
Non. Non, c'est la mère dénaturée. La femme qui abandonne ses enfants, c'est le monstre social, en fait. Et donc, finalement, la femme voyageuse qui a des enfants n'existe pas dans notre imaginaire, mais non plus le voyageur qui pouponne n'existe pas non plus. Et c'est un peu ça qu'il faudrait essayer de remanier et de déconstruire. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de figures possibles, comme chez les hommes comme chez les femmes.
Alors, vous l'avez dit, au sujet de la maternité, se joue souvent une culpabilité bien connue pour les femmes, que ce soit celles qui partent alors qu'elles ont des enfants ou celles qui, justement, ne veulent pas d'enfants. Se sentir légitime à partir, se sentir libre de le faire, c'est le souhait, Lucie Azéma, que vous formulez à longueur de page pour toutes les femmes. Mais encore faut-il pour cela, et vous en avez parlé, avoir une chambre à soi.
Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories.
Avec la voix de Virginia Woolf, seule archive connue datant de 1936 de l'immense femme de lettres anglaise, on revient, Lucie Azéma, pour conclure cette émission aux mots. Des mots qui eux-mêmes ont voyagé, sont pleins de mémoire et d'échos, nous a-t-elle dit, ce qui rend le fait d'écrire encore plus difficile. Virginia Woolf est aujourd'hui une icône féministe, connue à travers le monde pour avoir livré cette fameuse phrase « Si une femme, quoi que vous pouvez la dire, peut-être, Lucie Azéma ?»
Pour écrire une œuvre de fiction, une femme doit disposer d'une chambre à soi et d'un peu d'argent. J'ai plus les mots exacts, mais c'est ça l'idée. Ouais. Et c'est vrai que le voyage permet aussi d'accéder à sa chambre à soi, avec toutes les auberges par lesquelles on peut passer, ou d'aller chez l'habitant. C'est vrai que moi, quand je suis à l'étranger, quand une porte se referme sur ma nouvelle maison à l'autre bout du monde, c'est une sensation unique que j'aime beaucoup et que je retrouve en fait que dans le voyage, d'être dans un univers complètement différent du mien ou dont je maîtrise presque rien, et d'avoir quand même mon petit espace à moi. Et même si c'est juste pour une nuit, même pour deux nuits, je peux me créer un cocon et on se réapproprie encore mieux l'extérieur en ayant son intérieur, ça c'est certain.
Sachant que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que récemment, justement, une chambre à soi a été... On lui a trouvé une autre traduction, un lieu à soi. Ce qui veut dire aussi que ça n'est pas que renvoyer la femme à l'intérieur de soi ou à l'intérieur d'une chambre. Mais c'est, comme vous l'avez dit, même en voyage, trouver un lieu qui peut être aussi extérieur, un lieu à soi.
Oui, puisque finalement, les femmes, le fait qu'elles étaient cantonnées à l'intérieur et au foyer, ça ne veut pas dire qu'elles avaient accès à une liberté dans cet intérieur. Et le concept de l'idée de la chambre à soi, c'est vraiment de montrer que c'est un lieu totalement intime où on peut être libre de lire, de dormir, de rêver, d'être juste soi en fait. Et c'est le voyage permet cela aussi, oui.
Et soit en dehors du genre, en dehors des autres.
Oui, le voyage permet d'échapper à la performance de genre, puisque tout ce qu'on a dit aussi, la charge esthétique, on échappe à ça, on se soustrait à cette expérience du genre.
Et c'est encore vraiment nécessaire aujourd'hui au XXIe siècle, parce qu'on a beaucoup parlé de figures historiques où on peut imaginer que c'était difficile, parce qu'on ne pouvait pas ouvrir un compte en banque, il fallait parfois l'autorisation d'un père, d'un frère, en tout cas d'une figure masculine pour pouvoir partir. Aujourd'hui, là, au XXIe siècle, en Occident, et évidemment ailleurs où c'est peut-être plus compliqué, c'est encore nécessaire.
Oui, j'en suis certaine. Malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire le contraire, mais les questions relatives à la maternité sont encore très fortes pour les femmes. Elles sont encore beaucoup assignées à ça, d'une certaine maternité, une certaine façon de voir la maternité. Et sur la question de la charge esthétique, je pense qu'il y a une reprise de ça par rapport au voyage, et notamment on le voit avec Instagram. J'essaye de le développer brièvement dans mon livre. C'est que Instagram remet au centre le physique de la voyageuse, son niveau social, les vêtements qu'elle porte. C'est beaucoup axé sur la chirurgie esthétique. Et finalement, le voyage n'est plus la découverte complètement libre. Ça devient comme... On retrouve la performance du genre, où il faut être dans un bel endroit, faire des belles photos. Et je trouve ça vraiment, oui, inquiétant. Je pense que c'est le retour de la sexualisation de la voyageuse.
Mais ce retour-là, il est orchestré, d'où il vient? Parce que souvent, ce sont les femmes qui elles-mêmes mettent en scène leur voyage de cette manière-là.
Bien sûr, c'est parce que ce sont des prescriptions sociales. Et en fait, une femme, pour être la prescription sociale de la femme, c'est la charge esthétique et le fait, oui, de se parer. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, de répondre à ces critères-là. Quand la femme s'éloigne de ces critères, elle prend des risques sociaux beaucoup plus forts, alors que l'homme, quand il est indépendant, lui aussi rentre dans ses prescriptions et donc ça lui bénéficie, ce qui n'est pas le cas du tout pour les femmes.
Donc alors comment est-ce qu'on arrive, question très compliquée, mais justement à se défaire de ça, de ces prescriptions-là?
Ça prend du temps, je pense que c'est de la déconstruction, évidemment au niveau social, mais au niveau personnel, c'est des questions très... Toute la question du maquillage, d'accepter d'avoir une vie plus, je dirais, précaire, mais plus instable. Voilà, plus simple, plus instable. C'est soi avec soi-même, oui, je pense.
Alors, pour finir, Lucie Azéma, vous militez dans votre livre pour la flânerie. Isabelle Eberhardt parlait de vagabondage. Vous dites que c'est ce temps suspendu où l'on marche sans but et où l'on a finalement l'esprit libre. Et en fait, c'est ça qu'on se dit, même par rapport à tout ce qu'on disait sur les prescriptions sociales. Avoir l'esprit libre, c'est finalement ça, peut-être la destination, ce que recherchent les voyageuses et les voyageurs en général.
Oui, puisque en fait, les femmes se déplacent, mais souvent c'est d'un point A à un point B pour gérer les choses du quotidien. Mais la flânerie, c'est vraiment la marche oisive, c'est la marche de totale liberté, c'est le fait de marcher le nez au vent et d'être seule.
Ce qui nous a beaucoup manqué depuis un an, par exemple.
Complètement, absolument. Et le voyage permet cela aussi, puisque en principe, à moins d'avoir un programme très, très marqué, mais sinon, de se laisser complètement aller et de se laisser porter par l'existence, d'apprécier en fait cette oisiveté pour ce qu'elle est.
Et par la rencontre, parce que vous en parlez pas seulement comme une expérience intérieure, mais aussi comme quelque chose qui permet d'aller vers l'autre, disant finalement que le voyage dans son expérience féministe, c'est donc refuser d'être dominée, mais refuser aussi de dominer l'autre. Donc, comme vous en avez parlé à votre sujet pour l'Iran et votre vie là-bas, cette façon finalement d'essayer de se défaire de son regard pour... Peut-être, alors illusion, je ne sais pas, mais essayer d'adopter le regard de l'autre.
Oui, en tout cas de changer son propre regard sur l'autre et d'essayer d'instaurer un rapport d'égal à égal. Et le voyage, c'est ça, avant tout, c'est ça, c'est le lieu de l'altérité, c'est le lieu où on partage, où on va à la rencontre de l'autre dans son terme, dans son acception la plus belle. Et donc, le fait de se dépouiller de le plus possible des préjugés et des partis pris idéologiques, c'est là, je pense, qu'on atteint effectivement le cœur du voyage.
Lucie Azéma, merci.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre essai paru chez Flammarion, « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ ». Merci à Lucie Bouteloup, Marjorie Bertin et Nathalie Laporte pour leur lecture. Merci enfin à Isabelle, Alexandra, Nelly, Ella et toutes les autres voyageuses d'avoir ouvert la voie, celle de l'égalité et des voyages. Et soyez-en sûrs, nous n'avons pas fini de les défendre et de les explorer. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.